vous font réagir. Jusqu'à 15h, vous écoutez Drainville PM au réseau Cogeco.
Troisième heure qu'on va terminer en parlant avec quelqu'un de Paris Match. La grande revue, là, le grand magazine Paris Match qui couvre beaucoup notamment la royauté britannique. Bon, c'est sérieux, puis c'est un petit peu léger en même temps. C'est parce que Meghan Merkel, là, vous savez, la princesse là, qui s'est mariée il n'y a pas longtemps avec Harry, eh bien, George Clooney, là, le grand acteur, a peur qu'il lui arrive quelque chose parce qu'elle est pourchassée par les paparazzis. Bon, alors on va aller faire un petit tour, savoir qu'est-ce qui se passe au juste. L'ami Luc va venir nous donner son bon coup et son mauvais coup du jour. Ça devrait donner lieu à quelques échanges intéressants. Mais d'abord, rappel important pour le Ford 150. Hein, je vous rappelle, le 150, c'est le véhicule le plus vendu au pays. Fait que quand il y a un rappel de Ford 150, F-150, ça veut dire que ça touche beaucoup, beaucoup de gens, n'est-ce pas, Benoît Charrette, rédacteur en chef de l'Annuel de l'Auto?
Absolument, Bernard Drainville. On parle de 1,48 million de véhicules à l'échelle nord-américaine. De ce nombre, il y en a 221 000 au Canada. Et vous me direz qu'est-ce qui est arrivé encore, parce on les accumule, les rappels. Là. Il y en a eu un en septembre, un en décembre, qui touchait respectivement 884 000 et 2 millions de véhicules. Puis là, un autre 1,5 million de véhicules. En fait, il faut être précis, ça touche les modèles 2011, 2012 et 2013 qui ont une transmission automatique à 6 rapports. C'est ces modèles-là qui sont rappelés. Il y a un problème de défaillance d'un capteur au niveau de la transmission. Et ce qui peut arriver, c'est que sans avertissement, en conduisant, le véhicule peut rétrograder au premier rapport.
Oh!
Alors, ça, vous risquez de rester plutôt bête.
Ben là, tu veux pas. J'espère qu'il tombe pas. Il passe pas de 6 à 1, parce que s'il passe de 6 à 1, tu es dans le trouble. Là, tu vas péter tu peux casser ta transmission solide. Là.
Ben, c'est ça. Ce problème-là mécanique a déjà causé 5 accidents, parce que vous comprenez bien que de 110 km/h tomber en première, ça donne un grand coup dans l'auto. Vous brisez votre moteur. Là, c'est à peu près immanquable. Puis on dit même qu'aux États-Unis, un des conducteurs qui a été impliqué dans les accidents aurait subi une entorse cervicale.
Mais je sais pas.
Vous comprenez le coup de fouette que ça vous donne. Alors, on rit, mais c'est pas drôle. Donc, ces véhicules-là vont être appelés. Bon, il faut le préciser, ce ne sont pas tous les véhicules qui font défaut. Sauf que, comme on ne peut pas le deviner, ben, on les rappelle tous, on vérifie. On change le capteur, c'est pas un truc très compliqué. Et après ça, ben, on va remettre les véhicules sur la route. Donc, c'est un problème qui touche beaucoup de modèles. Donc, on va faire là dans les jours qui suivent, là, soit on procède généralement par lettre ou par téléphone.
Ouais.
Mais comme c'est des modèles 2011, 12, 13, peut-être que les gens qui sont propriétaires ne sont pas les premiers propriétaires. Donc, à ce moment-là, ce qu'on conseille aux gens, c'est d'appeler un concessionnaire Ford et de donner le numéro d'identification du véhicule. On va savoir avec ça si le véhicule que vous possédez est touché ou pas.
Benoît, je comprends pas. Comment ça se fait que ça a pris tant de temps avant qu'ils s'en rendent compte? Si tu me dis c'est 2011, 12 et 13, donc t'as des véhicules là, qui ça fait 7-8 ans qu'ils sont sur le chemin. Là.
Absolument, absolument. En fait, on procède toujours de la même façon. Du côté des États-Unis, c'est souvent le NHTSA, le National Highway Traffic Safety Administration, qui est un peu le chien de garde et l'enquêteur, et qui va recevoir des plaintes de gens si des problèmes, parce qu'il existe ce qu'on appelle des bulletins de service. C'est pas un rappel, sauf que on va vérifier quelle pièce ou quel problème est récurrent chez des véhicules. Et là, quand on constate qu'il y a un nombre anormalement élevé de problèmes qui reviennent, à ce moment-là, souvent, on va faire enquête, on va aller voir et on va vérifier. Et c'est souvent à partir de ça ou de plaintes qui ont été enregistrées de gens qui ont dit, écoutez, je roulais à 110, puis d'un coup, bang, le moteur est tombé à sur-régime, puis ma transmission a débarqué.
Ouais.
Bon, ben, il y a eu 5 accidents aux États-Unis, donc ces cas-là ont été reportés. Et à ce moment-là, on va faire enquête. Et c'est souvent suite à l'enquête qu'on va découvrir qu'effectivement, il y a une pièce fautive ou il y a un morceau qui n'a pas été construit comme il aurait dû l'être.
Bon, là, tu vas me dire, ça va de soi, mais je vais quand même te poser la question. Si on ramène notre véhicule, notre F-150 au garage, je veux dire, tout est couvert, là, on ne paye pas une scène, là, hein, on s'entend?
Oui. Généralement, les rappels, tout ce qui est pièce, tout ce qui est morceau est couvert. À l'occasion, et ce n'est pas toujours le cas, on va des fois payer pour la main-d'œuvre. C'est-à-dire que si ça a pris une demi-heure pour installer la pièce, on va vous charger la demi-heure de temps du mécanicien qui a travaillé dessus. Mais ce sont des cas d'exception. En général, la compagnie couvre le travail, pièce et main-d'œuvre.
Bon. Là, je vais te poser une question de gars qui s'y connaît plus ou moins en la matière, qui a eu plusieurs autos, mais qui n'est pas nécessairement un grand connaisseur. Moi, j'ai eu quelques rappels, mettons, au fil du temps.
Oui.
OK? Puis, à un moment donné, j'en suis venu à penser que... Écoute, je me suis dit... C'est parce que, tu sais, il t'envoie un rappel, puis tu vas au garage. Puis il t'envoie un deuxième rappel, tu vas au garage. À un moment donné, t'es tanné. Parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Fait que tu sautes, mettons, tu sautes un rappel, il n'y arrive rien. Tu sautes un deuxième rappel, puis il n'y arrive rien encore. Puis là, tu finis par penser que les foutus rappels, c'est une façon pour les manufacturiers de te faire revenir au garage, puis de te trouver peut-être un petit bobo pour lequel tu vas finir par payer, ou encore de reprendre contact avec toi, de rétablir le lien avec, avec le détaillant, avec le concessionnaire. Y a-tu un petit peu de, mettons, de marketing, puis un petit passe-passe à travers les rappels par moment?
Bon, je te dirais que non, pour une raison très simple, parce que des rappels, les compagnies n'aiment pas en faire, puis n'aiment pas en avoir, parce que ça coûte extrêmement cher. Parce que les rappels sont aux frais de la compagnie. Donc, même si, regarde, là, on parle de 1,5 million de véhicules. Mettons que ça coûte juste 100 $ là, pour faire la réparation. C'est pas beaucoup 100 $ là. On va pas loin d'un garage avec 100 $ là.
C'est sûr.
Bon, ben, on parle de
150 millions. 150 millions.
Ça va coûter à Ford. Alors, ils seront pas fiers, eux autres, là, de sortir 150 millions de leur poche. Et les rappels, ne serait-ce que par, je dirais par bonne conscience, moi je recommande toujours aux gens de les faire. Des fois, c'est des choses anodines, puis peut-être que le véhicule que vous avez n'a rien, parce qu'évidemment, ce n'est pas 100% des véhicules qui ont un problème. Généralement, un rappel, là, ça va concerner 10%, des fois 15% des véhicules, mais rarement plus que ça. Sauf que c'est impossible de savoir si le véhicule que vous avez, le capteur, est bon ou pas. Des fois, on va vérifier. Il y a des pièces qu'on peut simplement regarder visuellement et dire « Non, monsieur, madame, votre véhicule est correct. Merci, vous pouvez retourner chez vous. Vous n'avez rien. » Ou « Non, la pièce que vous avez est fautive. On la change, on vous retourne chez vous. » Mais pour la conscience de dire « Bon, ben, je fais assidûment les rappels. » Parce que généralement...
Toi, tu fais toujours, rappel, Benoît Charrette, toi, tu fais toujours tes rappels,
oui,
toi?
Oui, absolument. Ouais. Absolument. Ma voiture a eu un rappel en décembre. Je suis allé à deuxième semaine de janvier et mon véhicule n'était pas touché. Bon, j'ai dit, OK, parfait. Mais pour la sécurité dans la conduite, je pense que c'est important. Là. Souvent, parce que quand on fait un rappel, c'est parce que c'est un problème qui en vaut la peine. S'il n'y a pas de rappel, généralement, bon, je vais te donner un exemple niaiseux. Transport Canada va faire des rappels sur une mauvaise traduction dans le manuel du propriétaire. Bon, regarde, allez pas au garage faire changer votre... Ça, c'est un rappel inutile. Mais quand ça touche la sécurité,
que ce soit
la transmission, les freins, des fois un liquide hydraulique qui va fuir, on peut pas prendre de chance là-dessus.
Y en a-tu moins qu'avant? Y en a-tu plus qu'avant? Comment ça Parce que c'est, moi, je te dirais, tu sais, à un moment donné, là... Les grosses voitures nord-américaines, là, les GM, les Ford, tout ça, ça c'est mettons nos pères conduisaient ça, nos mononcles, puis bon, là c'était fiable. Puis à un moment donné, l'industrie américaine est tombée dans une mauvaise passe. Là, les Japonais sont devenus des symboles, des références en matière de qualité. Et on avait l'impression que l'industrie nord-américaine en avait beaucoup perdu sur le plan de la qualité puis de la fiabilité. Puis là, ben, au fil du temps, je pense qu'ils ont repris pas mal du poil. Du poil de la bête. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est, mettons, dans l'espèce de classement de la fiabilité des véhicules? Est-ce qu'il y a des véhicules, mettons, ou des marques qui sont plus touchées par les rappels que d'autres? Ce qui serait une façon de démontrer qu'ils sont peut-être moins fiables et de moindre qualité?
On va faire le ménage là-dedans, là, rapidement. D'abord, les voitures d'aujourd'hui sont plus fiables que les voitures d'il y a 20 ou 30 ans. Ça, c'est immanquable. Ce qui est arrivé, c'est qu'autrefois, les rappels, très souvent, on ne les faisait pas. On cachait plus ou moins aux consommateurs. Moi, j'ai déjà discuté avec un haut placé chez GM il y a plusieurs années, puis je vous donne un exemple de GM parce que ça venait de quelqu'un de chez GM, mais cette vérité-là s'appliquait probablement à la plupart des compagnies automobiles. Lui m'avait dit qu'aux États-Unis, on gardait 250 millions de côté dans un compte pour régler des cas au cas par cas dans des problèmes qu'on avait avec certains véhicules parce que ça coûtait moins cher de faire ça que de faire un rappel officiel et de payer pour tous les problèmes que ça allait occasionner. Sauf que ça s'est su et il y a des constructeurs qui ont payé très cher le fait d'avoir caché des problèmes au public. Et on a eu, entre autres, GM avec son fameux démarreur qui ne fonctionnait pas, ou Toyota avec ses tapis qui relevaient, qui a causé des accélérations, qui a tué du monde aux États-Unis. Toyota a mis 1 milliard sur la table devant le gouvernement américain pour s'excuser d'avoir caché un problème qu'il connaissait depuis longtemps. GM a payé aussi cher pour son problème de démarreur qui était connu depuis le début des années 2000. Et c'est en 2015 qu'on a fini par avouer qu'on le savait depuis longtemps. Donc, on ne veut plus se cacher et on aime mieux déclarer un rappel, payer l'argent puis être transparent à propos de ce qui est arrivé. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça évite de cacher des problèmes et de causer plus de tort en le faisant qu'en étant transparent et en allant réparer le problème. Donc, ça, c'était un changement d'attitude qu'on a vu là, au courant des dernières années.
D'accord, mais... t'es pas prêt à dire qu'il y a une marque ou un fabricant qui a été touché plus qu'un autre par les rappels?
Non, je te dirais non. Puis en fait, ce qu'on va voir de plus en plus, c'est qu'on a beaucoup maintenant de plateformes communes, de pièces communes.
Ah oui, oui.
Je vais te donner un exemple là, récent. Les fameux coussins gonflables Takata. Là. Il y a 128 millions de véhicules à travers le monde qui ont été touchés par ça. Pourquoi? Ben parce qu'un coussin gonflable, on le voit pas, c'est en dessous du volant ou c'est en arrière du tableau de bord du côté passager, que ce soit une marque japonaise, chinoise, arabe ou sri-lankaise,
oui.
La minute qui saute au moment voulu puis qui protège les vies. Donc, la majorité des compagnies, que ce soit Toyota, Honda, BMW, Audi, GM, Ford, Chrysler,
utilisent le même coussin.
Ils utilisent le même coussin.
Bon.
Si ce coussin-là est fautif,
ouais.
On est dans le trouble. Et c'est ce qui est arrivé. Takata a fait faillite parce qu'on était incapable de fournir à refaire tous ces coussins-là gratuitement. Ça a été racheté. Et les pièces communes sont de plus en plus la norme dans l'industrie automobile. Donc, souvent, les rappels sont plus massifs et touchent plus
d'accord.
de véhicules. Donc, c'est plus spectaculaire.
Oui.
C'est pas pire qu'avant. Là.
Alors, il y a un monsieur qui m'écrit, j'aimerais ça savoir, là, comment je peux savoir pour le rappel, parce qu'il l'a acheté usagé, je lui dis, appelez le détaillant d'origine, c'est ça?
Exact. Appelez un concessionnaire Ford, dans le cas du F-150.
Puis donnez-y.
Et utilise le numéro d'identification du véhicule. C'est ce qu'on
c'est
a dans le bas du pare-brise. Et avec ça, ça donne l'année de fabrication, le mois de fabrication, l'endroit de fabrication.
Excellent.
Et on va savoir si le véhicule est touché ou pas.
Benoît Charrette, rédacteur en chef de l'annuel de l'auto. Merci, Benoît.
Hey, merci, Bernard.
Salut, à la prochaine.
Salut.
Luc Lavoie. Eh ouais, qu'est-ce que tu veux? On est prêt avec encore une journée. Hein? Il s'en vient. Bon coup, mauvais coup du jour.